MCI TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bon lundi et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une grande joie de pouvoir commencer une nouvelle semaine avec vous tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi Dieu permet-il que nous vivions des moments difficiles. Parfois, on a du mal à comprendre comment c'est possible. Pourquoi est-ce que je vis ça, Seigneur? Pourquoi? Vous savez très bien de quel pourquoi je parle. On l'a déjà tous dit au moins une fois dans notre vie. Eh bien, on en discute ensemble aujourd'hui. Alors, je suis très bien accompagnée. Non seulement j'ai le pasteur Omer Kabouya, mais j'ai aussi le pasteur Joseph Bondo. Bonjour à vous, messieurs.
Bonjour,
pasteur Bondo, ravi de vous accueillir. C'est une première dans Bonjour chez vous.
Oui, ravi également de passer ce moment ensemble avec vous.
Vraiment, on est très très honorés de vous recevoir. Vous êtes le pasteur de l'église La Borne au Congo, à Kinshasa. Et oui, c'est ça, vous vouliez ajouter?
Oui, le centre évangélique francophone de La Borne à Kinshasa.
Oui, merci de le dire au complet. J'ai pris le raccourci, moi. Une merveilleuse assemblée, vraiment.
Merci beaucoup.
Qui porte beaucoup de fruits, donc c'est un honneur de vous recevoir. Vous avez vécu plus de 20 ans en Belgique et puis vous êtes revenu à la maison, entre guillemets, revenir à la patrie pour répondre à l'appel du Seigneur là-bas, avec votre épouse, vos enfants.
Oui.
Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir dans Bonjour chez vous. Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous aussi. Le plaisir est partagé. Voilà. C'est un honneur pour moi de partager le plateau avec vous, avec le pasteur Omer Kabouya. Et surtout avec les seigneurs.
Amen, amen. On est en très bonne compagnie, effectivement. Et aujourd'hui, on parle alors d'un thème qui intéresse quand même, je pense, beaucoup, parce qu'on se pose souvent des questions. On a souvent du mal à comprendre. Certaines choses nous arrivent, des épreuves, des difficultés, des ennuis, et on ne comprend pas pourquoi. Eh bien, aujourd'hui, on en parlera ensemble. Et pasteur Bondo, vous allez répondre dans la rubrique réponse d'experts tout à l'heure. Vous nous direz pourquoi Dieu permet-il justement que nous vivions des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots de quoi vous allez nous parler?
Eh oui, les moments difficiles, les épreuves, le temps d'adversité font partie de l'expérience chrétienne. Le Seigneur ne nous a pas promis une marche de santé. Il a dit, vous connaîtrez des tribulations, mais prenez courage, persévérez. J'ai vaincu le monde et avec moi, vous le vaincrez également.
Amen, amen. C'est une émission d'encouragement, je le sens. Alléluia. Ben oui, mais avant, tu dois travailler un petit peu, Omer. Je vais te faire travailler. Il va falloir que tu puisses commencer avec ta pensée du jour.
J'aimerais vous dire que vous pouvez être une source d'encouragement pour quelqu'un. J'aimerais vous dire que vous pouvez être utile pour quelqu'un qui passe par un temps de tempête. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on regarde la vie, moi je dis toujours qu'il y a trois phases. Soit on est dans une tempête, soit on sort d'une tempête, soit on s'en va dans une tempête. Donc, c'est très important. Lorsqu'on commence à regarder la vie comme ça, on va comprendre que oui, soit on est dans un temps difficile, soit on sort d'un temps difficile. La vérité, c'est qu'on sort. Ou à un moment donné, on va s'en aller vers un temps difficile parce que la vie est faite par cycle de saison. Actes chapitre 18, le verset 27 nous dit « Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir » en parlant d'Apollos. « Quand il fut arrivé, il s'est rendu, grâce à Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. » Dans la version Darby, le même texte vers la fin nous dit « Et quand il fut arrivé, il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru. » Et nous savons que le contexte du livre des Actes, c'est le contexte d'une église persécutée, une église qui passe par les temps difficiles. Mais ce qui est beau, en fait, lorsqu'on regarde le livre des Actes, c'est que dans les temps difficiles, l'église a toujours survécu parce qu'elle n'a pas trouvé des personnes qui l'a condamnée de l'intérieur, mais des personnes qui pouvaient encourager ceux qui passaient par les temps difficiles. Voici environ quatre raisons pour lesquelles vous pouvez être utile lorsque les temps sont difficiles parce que les temps difficiles rassurent. Mmh. Ceux qui passent par les temps difficiles, qui ne sont pas sous le poids d'une condamnation, mais que c'est seulement une saison passagère. Deuxièmement, les temps difficiles, lorsqu'ils sont là et que nous sommes une source d'encouragement, eh bien, ça va stabiliser ces personnes-là dans la foi. C'est ce que Apollos a été pour les chrétiens de son époque, parce qu'il est facile aujourd'hui de voir quelqu'un passer par les temps difficiles et de pointer du doigt en disant « Ah, c'est parce qu'il y a peut-être un péché caché dans ta vie, c'est parce que peut-être il y a ci, il y a ça. » Mais les temps difficiles font partie des saisons de la vie. Ensuite de cela, lorsque nous sommes une source d'encouragement, que pendant les temps difficiles, lorsque nous sommes une source d'encouragement, eh bien nous procurons, nous devenons une source de guérison. Parce que ces personnes-là, au travers de nos paroles, reçoivent une guérison au niveau de leurs émotions. Et quatrièmement, lorsque nous sommes une source d'encouragement, quand les temps sont difficiles, eh bien, ça ramène ceux qui sont perdus. On parle de Barnabas qui a su aller chercher un Saul de Tarse qui était rejeté à cause de son passé. Et je crois que vous soyez un jeune chrétien, que vous soyez un chrétien d'âge moyen ou que vous soyez un chrétien de longue date, chacun d'entre nous peut faire le ministère de l'encouragement, car c'est le ministère du Saint-Esprit.
Amen. Amen. On ne peut que dire Amen. Et c'est important, je pense, qu'on aborde ce thème aussi du regard de celui qui ne vit pas le moment difficile. Je vous rassure, le pasteur Bondo va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais c'est important parce que bien souvent, on est à l'extérieur et c'est très facile de dire « Ah, mais si seulement il avait un peu plus de foi, ça fait longtemps qu'il serait relevé. » Ou bien « s'il a vécu ça... » Il a sûrement péché, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et voilà, bah voilà, c'est ce qui arrive, on ouvre des portes au diable et puis après on se plaint. C'est tellement facile de venir juger, de venir pointer du doigt. Mais la Bible nous encourage, et c'est notre verset du jour, dans Romains 12 au verset 5, nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et si on continue même au verset 16, il est dit « Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Des fois, on est là et la Bible nous dit « Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. » On est là, on regarde les autres de haut qui traversent des épreuves, des difficultés. On les juge même de façon des fois très subtile, très détournée, de façon très spirituelle, en citant des versets, en venant prouver par A plus B que, mais en réalité, on se place au-dessus d'eux. Au lieu de se mettre avec eux et de pleurer avec ceux qui pleurent, eh bien, on se place au-dessus d'eux, on se place en juge. Et attention, parce que nous-mêmes, on peut un jour se retrouver dans cette situation.
La souffrance, les larmes, la persécution, les moments difficiles font partie, comme je l'ai souligné, de l'expérience chrétienne. Et tant de versets de la parole de Dieu mettent en évidence le fait que tous ceux qui s'élèveront pour marcher avec le Seigneur, eh bien, rencontreront d'une manière ou d'une autre, connaîtront des moments difficiles, des moments d'épreuve. Et en parcourant la parole de Dieu, nous pouvons trouver des raisons. Je m'aimerais en épingler juste quelques-unes. Les épreuves sont là, les moments difficiles sont là. D'abord pour nous permettre de savoir, de comprendre que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en effet des pèlerins sur cette terre, nous sommes des voyageurs en route vers notre vraie patrie. Car lorsque tout baigne dans l'huile de la réussite, lorsque tout marche comme sur des roulettes, lorsqu'on va de réussite en réussite, de victoire en victoire, eh bien la tendance, c'est de nous amener à croire que nous sommes chez nous, à vouloir transformer cette terre en cité permanente. Alors que la Bible nous dit que non, nous sommes des pèlerins. Et donc, et c'est là que nous voyons pourquoi le Seigneur permet que nous rencontrions tout d'un coup des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où nous nous retrouvons comme dans une sorte de trou noir, où nous perdons le nord, où nous ne savons plus quoi faire. Et dans ces moments-là, nous nous posons toutes sortes de questions. Et comme vous l'avez mentionné, il y a toujours des gens autour de nous qui seront là pour essayer de nous charger, de nous culpabiliser. Des gens qui se sont spécialisés dans la recherche d'époux sur la tête des chauves.
C'est joliment dit.
Voilà.
Sagesse.
Alors, et donc, ça nous rappelle qu'en effet, notre patrie est là-haut et que nous sommes simplement des pèlerins, des résidents temporaire, et qu'un jour nous quitterons cette terre et nous nous en irons auprès de notre Père, et ça sera pour y vivre ad vitam aeternam. Ça, c'est la première raison. Donc, l'épreuve, la souffrance, les temps difficiles, qui sont des temps des larmes, des temps des questionnements, eh bien, sont là pour nous les rappeler.
Oui.
Que voilà, notre vie, un jour, devra s'arrêter et que nous passerons dans l'éternité. Alors, une autre raison du pourquoi le Seigneur permet que nous passions par des moments difficiles, c'est que ces moments difficiles, ces temps d'épreuve, sont des moments où notre foi est éprouvée. Et l'épreuve de notre foi, eh bien, vaut plus que l'épreuve de l'or. C'est lorsque nous passons par des moments difficiles que notre foi se fortifie. Parce que dans la plupart des cas, lorsque nous nous retrouvons dans la crue du vague, dans le creux de la vague, eh bien, nous nous mettons tout d'un coup, nous réalisons que nous ne sommes pas en mesure d'affronter l'adversité. Et là, nous nous tournons vers le Seigneur. Et là, nous nous mettons à aller chercher. Et cela stimule notre foi. Mm-hmm. Et donc, toutes ces épreuves sont comme une sorte de musculation de notre foi. Et plus la foi, ou du moins plus nous faisons face à toutes sortes de problèmes, des difficultés, toutes sortes d'adversités, eh bien plus notre foi encaisse, et plus eh bien elle s'affermit, elle se fortifie, elle croit. Et donc, c'est vraiment un bel exercice de notre foi, et nous pouvons trouver tout à fait dans la parole de Dieu, comment, d'ailleurs on le voit dans la liste que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne au chapitre 11, ceux qu'on appelle les héros de la foi, comment ont-ils vécu avec les seigneurs, comment ont-ils terminé leur parcours ici-bas. Il y en a qui ont été persécutés, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été rejetés, il y en a qui ont eu à faire face à des bêtes sauvages.
Oui.
Et donc tout cela nous montre qu'en effet, c'est dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, et c'est vrai qu'humainement parlant, c'est très très difficile de comprendre pourquoi un Dieu qui nous aime, un Dieu compatissant, un Dieu bon, permet-il que tout d'un coup nous nous mettions à pleurer.
C'est ça qui est difficile.
Voilà.
Oui.
Donc, il n'est pas sadique. Il a un plan pour nos vies. Il a aussi un plan à travers nos vies. Et ce plan ne peut s'accomplir que dans un certain contexte. Ne peut s'accomplir qu'à condition que certaines choses soient rencontrées en amont. Voilà. Et là, avec l'épreuve, avec la persécution, et bien, notre foi grandit. Et c'est aussi une occasion d'éprouver notre amour envers le Seigneur. Il est beaucoup plus facile de chanter Alléluia du 1er janvier au 31 décembre. Il est beaucoup plus facile de siffloter en langue un peu partout lorsque tout va bien, lorsqu'on ne rencontre pas d'adversité. Mais combien c'est beaucoup plus difficile. Plus difficile de continuer à dire « Seigneur, je t'aime » malgré ces temps de difficultés, malgré cette saison sombre, alors que tout s'écroule autour de moi, alors que je vais de crise en crise, et je vais de problème en problème, Seigneur, mais malgré tout cela, je tiens à toi, je te reste fidèle, je poursuis ma marche avec toi, car je sais que tout ce que tu fais dans ma vie, tu ne le fais pas par hasard, mais tu le fais pour accomplir le plan que tu as pour ma vie.
Oui.
Et comme d'ailleurs Paul nous l'a dit dans Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés, selon sa volonté. Tout. Et dans ce tout-là, il n'y a pas que les choses qui nous plaisent. Il n'y a pas que les choses qui nous réjouissent. Il y a aussi les choses qui nous font pleurer. Il y a aussi des choses qui nous humilient. Il y a aussi des choses qui nous, qui sont là comme des obstacles, comme des montagnes à escalader. Tout, absolument tout. Et enfin, les moments difficiles sont également des opportunités pour le Seigneur pour poursuivre cette œuvre de régénération en nous, cette œuvre de transformation en nous, parce que les moments difficiles, dans la plupart des cas, eh bien, nous amènent à Christ. Nous nous jetons entre ses bras, et lui, le divin potier, peut alors nous façonner, peut alors nous modeler. Les moments difficiles, eh bien, permet au Seigneur de briser le moi. Le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre se renie lui-même, renonce à lui-même, prend sa croix et marche derrière moi. voyez. Et donc tout ça nous montre qu'effectivement, il y a un travail qui doit être fait en amont avant que quelque chose se passe en aval. Et ce travail en amont, c'est justement la mise à mort du moi. Mm-hmm. Et mm-hmm. Le moi qui reste notre premier ennemi. Oui. Ce n'est pas tant le diable. Voilà, le premier combat se trouve en nous. Mm-hmm. Voilà, nous devons lutter contre le moi, parce que le moi, eh bien, ses tendances, ses désirs, bref, tout ce que le moi aime est contraire à la volonté du Seigneur. Et donc, il faut que le moi soit brisé. Et c'est dans la mesure où nous sommes confrontés à l'adversité, où nous rencontrons des difficultés, que notre moi est de plus en plus brisé. Et c'est alors que le Seigneur prendra toute la place à nous. Il faut que le moi abdique, il faut que le moi quitte son petit tabouret, son petit escabeau, afin que le Seigneur le transforme en un trône sur lequel il va s'asseoir. Mm-hmm. Et c'est donc au travers de toutes ces difficultés que notre moi est brisé. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, il a connu, le Seigneur avait permis qu'il ait une écharde, qu'il a fait souffrir, lui qui a guéri les malades, lui qui a chassé les démons. Voilà qu'il, tout d'un coup, il fait face à un problème. Voilà, nous ne savons pas très bien c'était quoi cette écharde, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui était une source de souffrance énorme. Il dit, j'ai prié 3 fois pour que le Seigneur éloigne tout cela de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et c'est là qu'il dira, lorsque je suis faible, lorsque les gens voient que je n'ai plus de foi parce que je passe par des moments difficiles, c'est à ces moments-là que la puissance du Seigneur peut se manifester. Donc le moi doit absolument abdiquer. Mmh. Et c'est en passant par des moments difficiles que le moi peut abdiquer. Et c'est d'ailleurs en cela que le verset de 2 Corinthiens 4, 9 à 10, où il est dit, pressé de toutes parts, par toutes sortes de situations adverses, le moi abdique.
Oui.
Voyez. Et Paul exprime cela en utilisant la mort du Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il dit la mise à mort, littéralement, c'est-à-dire la mise à mort en Christ. C'est dans la mesure où nous mourons à nous-mêmes qu'alors la vie de Christ peut être manifestée et que son plan peut pleinement s'accomplir.
Oui.
Et donc c'est fondamental de passer par des temps d'épreuve, des temps de difficultés, de connaître des saisons de sécheresse, des saisons où nous passons par toutes sortes de déserts.
Mmh. Et je me souviens quand on a parlé ensemble en préparant cette rubrique, m'a dit une chose qui était intéressante, c'est que dans le moment quand on vit l'épreuve, on est dans les pourquoi, on comprend pas, mais parce qu'on voit pas en fait ce que Dieu a prévu derrière. Et vous citiez ces héros de la foi, et en fait on voit l'épreuve par laquelle ils sont passés, mais on voit Isaac apparaître, on voit comment Job a terminé, et en fait c'est ça, c'est que il y a la fin, et vous me parliez de Lazare même, cette épreuve qui vient frapper Marthe et Marie, qui a l'air atroce.
Exactement. Ces deux sœurs ont été confrontées à une grande épreuve. Mm-hmm. C'est la santé de leur frère, Lazare.
Oui.
Et dès qu'il est tombé malade, dès qu'elles ont réalisé que sa santé déclinait de plus en plus, elles envoient le message au Seigneur. Elles font accompagner ce message par ce mot, « Lazare, que tu aimes. »
Mm-hmm.
Et donc, par ces mots, elles se sont dit, forcément, aussitôt qu'il aura reçu le message, il viendra parce qu'il aime.
Mm-hmm.
Mais non, le Seigneur a son temps, son timing n'est pas toujours le nôtre, et il est resté. Entre-temps, pour les deux sœurs, ça a été une grande épreuve.
Oui.
Voyez, et chaque heure qui passait, ils voyaient leur frère s'approcher de plus en plus de la mort, jusqu'à ce que finalement la mort prenne le pas sur lui. Et là, pour elle, c'est fini. Et c'est justement à ce moment-là que le Seigneur se décide d'aller et de répondre à la requête de deux sœurs, Marie et Marthe.
Oui.
Et quand il arrive, une des sœurs lui dit, mais Seigneur, si tu avais été ici avant, notre frère ne serait pas mort.
Oui.
Oui, si tu avais été. Voilà. Donc, mais tu peux, même en étant ici.
Oui.
Si tu avais été, mon frère ne serait pas mort. Et même maintenant, tu peux faire quelque chose. Le Seigneur dit oui, je suis la résurrection. Eh bien, la sœur rebondit sur cette parole en disant, oui, tu as la résurrection, notre frère ressuscitera au dernier jour. Mais le Seigneur n'a pas dit, je serai la résurrection. Je suis la résurrection. Mm-hmm. Donc, je suis capable, dans ce contexte de larmes, de douleur, de désespoir, je suis capable de tout changer.
Oui.
De donner la vie là où il y a la mort. Mm. Voyez? Et trop souvent, nous agissons de cette manière, nous nous posons des questions. Nous avons trop attendu, et puis finalement, ben, ce qu'on craignait est arrivé. Alors, pour nous, c'est la fin. Non, avec le Seigneur, ce n'est jamais la fin. Mm. Elles ont demandé une guérison. Elles vont recevoir une résurrection.
Alléluia.
Mmh. Oui. Et avec la résurrection, eh bien, le nom du Seigneur sera encore beaucoup plus glorifié.
Oui.
Voyez. Et donc, et là, elles ont compris. Et là, les autres ont compris que Dieu a son temps. Mmh. Et c'était un temps d'épreuve. Et je crois qu'elles ont compris, comme d'ailleurs lui-même a dit, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Dieu. Amen.
Donc, c'est important. On ne sait pas toujours pourquoi, mais et d'ailleurs, poser la question pourquoi d'un mot est toujours un danger. Il faut poser la question pourquoi deux fois. Quand on dit pourquoi, là on mm-hmm. cherche le but.
Mm-hmm.
Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette épreuve, Seigneur? Mais quand on dit pourquoi, quelles sont les raisons? Et souvent, ben, on commence à vouloir chercher ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est là que l'ennemi profite pour venir nous charger, nous culpabiliser, nous rappeler certains péchés mm-hmm. pour lesquels on s'était déjà repenti en disant, mais tu vois, dans ta jeunesse, tu as fait ceci, ah ben tu vois, avant ton mariage, tu avais fait cela, alors que tu t'étais déjà repenti, le Seigneur t'avait déjà pardonné.
Oui.
Et donc voilà, pourquoi, dans quel but
mm-hmm.
Et donc pour conclure, c'est que Dieu en son temps, il permet la souffrance parce que, et ça c'est important que nous puissions le savoir, Dieu poursuit un but pour notre vie, mais il poursuit aussi ses objectifs à travers notre vie.
Mmh.
Et là, s'il y a un exemple qui illustre ce que je viens de dire, c'est le cas de Zacharie et d'Élisabeth.
Mmh.
Zacharie était comment ? Sacrificateur, et quand ils se sont mariés, ils s'attendaient à ce que l'année après, des enfants viennent, etc.
Mmh, mmh.
Voilà, première année de mariage, rien, deuxième année, etc. Les années ont passé.
Oui.
Et nous pouvons supposer tout à fait qu'ils ont demandé un enfant. Parce que Zacharie, sachant, savait très bien qu'en tant que sacrificateur, eh bien, avoir un enfant était important.
Oui.
Pour lui passer le flambeau.
Tout à fait.
Et voilà, ils arrivent à la fin de leur vie, toujours rien.
Mmh.
Jusqu'au jour où, alors qu'il travaillait, alors qu'il était au temple, un ange lui apparaît, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit, Zacharie, enfin ta prière a été entendue. Enfin le Seigneur m'envoie pour te rassurer et pour te dire que ta femme sera enceinte. Tu auras un fils
mm-hmm.
à qui tu donneras le nom de Yohanan, donc le Seigneur fait grâce, ou l'Éternel fait grâce.
Mm-hmm.
Et la réaction de Zacharie, déjà vieux, elle dit, mais comment cela se fera-t-il
mm-hmm.
Parce que, et mon, voilà, le doute.
Mm-hmm.
Parce qu'ils ont prié pendant des années.
Mais oui.
Alors, ils ont affronté le regard des autres.
Mm-hmm.
Pour eux, c'était de l'humiliation.
Oui, une honte.
Alors, mm-hmm. Une honte, en effet. Mm-hmm. Surtout dans une société où avoir des enfants valorisait la femme.
Oui.
Et donc, c'était quelque chose de terrible pour eux. Voilà. Humainement parlant, on se serait posé la même question. Mais pourquoi le Seigneur ne répond pas à la prière de ces sacrificateurs, d'Élisabeth, une femme qui craint Dieu, etc. Non, le Seigneur avait un plan, non seulement pour leur vie, mais aussi pour les autres à travers leur vie.
Oui.
C'est ce qui va arriver.
C'est vrai.
Parce que quand Jean-Baptiste va venir, le Seigneur va répondre à la prière de Zacharie et d'Élisabeth en leur donnant un fils qu'ils ont tant cherché, mais en même temps, au-delà de Zacharie et Élisabeth, le Seigneur va donner un précurseur à Israël, Jean-Baptiste.
Mm-hmm.
Voyez, et donc Dieu a des projets pour nous, mais aussi à travers nous.
Mm.
Et quelquefois, ce sont des objectifs à long terme. Nous ne voyons pas au-delà. Nous avons un horizon qui est limité.
Mm-hmm.
Voilà, nous limitons, nous ramenons tout à nous. Seigneur, ta volonté pour ma vie et tout ça.
Mm-hmm.
Mais l'homme et la femme, Zacharie et l'autre, ne pouvait pas s'imaginer que Dieu avait un plan. Ouais. Mais pour que ce plan réalise, il a fallu payer le prix.
Vraiment.
Et quand l'enfant est arrivé, ils ont compris. Et d'ailleurs, le jour où on présente l'enfant, on les circoncit, on donne le nom. Tout le monde s'attendait à ce qu'on l'appelle par le nom de Zacharie, le nom du père. Et lui dit, non, il s'appelle, il écrit. Et sur le champ, sa langue se délie. Et quand on lit les passages qui viennent par après, eh ben, on nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, donc cet enfant portait la bénédiction pour son père, voilà, pour la maman, mais aussi pour Israël. Car il va être, eh bien, le précurseur du Messie. Il va annoncer, il va proclamer la parole, demandant aux uns aux autres de se préparer à recevoir celui qui venait. Mais il fallait que lui et l'arrivée du Messie coïncident.
C'est ça.
Jean-Baptiste ne pouvait pas venir après 5 ans de mariage.
Effectivement.
Voilà. Mais personne, personne, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur, ni d'Élisabeth, ni de Zacharie, Dieu l'avait déjà prévu.
Oui.
Et donc, c'est la même chose avec les souffrances. Il sait pourquoi. Tout ce qu'il nous demande, c'est que persévérons, faisons-lui confiance. Le moment venu, comme avec Job, mon rédempteur est vivant. Je sais qu'en ce jour-là, il s'élèvera. Et il est venu.
Vraiment.
Et il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Mais il a fallu persévérer. Il a fallu user de patience. Oui, la souffrance fait partie de l'expérience avec Dieu.
C'est ça. Et ce que j'aime dans les différentes anecdotes bibliques que vous partagez, c'est qu'on voit comment Dieu transforme le mal en bien.
Amen.
Et comment des situations, oui, qui nous sollicitent énormément d'interrogations et d'incompréhensions finissent par, en fait, solliciter des louanges et de l'adoration en nous parce qu'on voit la gloire de Dieu.
Ouais.
Et l'objectif est simplement de vous encourager. Peut-être que vous êtes comme Élisabeth, comme Zacharie, comme Marthe et Marie à dire, mais Seigneur, Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à peut-être regarder au-delà du pourquoi, à dépasser ce mur du pourquoi et à dire, Seigneur, je te fais confiance. Oui, je sais que tu vas te lever, mon Rédempteur va se lever, tu vas intervenir d'une façon ou d'une autre. Je ne comprends pas tout, mais je te dis, Seigneur, que tu puisses te glorifier au travers de cette épreuve, au travers de cette souffrance que je traverse. Je veux que ta gloire puisse se manifester. Tout comme Lazare est ressuscité, votre situation va ressusciter, va reprendre vie au nom de Jésus. Que votre foi ne soit pas troublée, que vous soyez encouragés, que vous soyez fortifiés dans ce que vous traversez, parce que le Seigneur est avec vous. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas disqualifié, il ne vous a pas accusé, écrasé. Non, le Seigneur est avec vous dans ce que vous traversez. Vraiment, que Dieu vous encourage, vous fortifie. Et bientôt, vous pourrez glorifier le Seigneur et vous pourrez, tout comme Élisabeth et Zacharie, pouvoir élever cet enfant et dire gloire à Dieu. Il l'a fait, ben vous pourrez élever cette situation et dire gloire à Dieu, il l'a fait. Merci à tous les deux, merci pour ce thème important qu'il faut aussi aborder de temps en temps. On aime moins parler de ça, mais c'est la réalité aussi. Merci beaucoup. Et demain, on va parler d'un autre sujet, mais bien important aussi, on va parler d'égocentrisme. C'est un fléau qui menace l'Église, où on n'aime pas ça, mais s'il vous plaît, ouvrez-vous à ce thème. Et Pasteur Bondo, vous allez faire une rubrique Couple et relations demain. Alors, vous allez nous parler de la conjugaison inversée dans le relationnel. Oh là là, ça paraît bien surprenant, mais on va voir qu'il y a un ordre à respecter, un ordre divin qui va faire du bien à votre couple. Je vous le dis déjà, c'est un excellent thème qu'on aborde demain. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là et je vous dis à demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.